Et bienvenue à tout le monde. On est dans un survol de Genèse et puis on est à Genèse chapitre 11. Et ce matin, on va parler de la confusion. Je sais que la confusion règne souvent. Et c'est une caractéristique qu'on vit de nos jours, mais ça vient de longtemps, ça. Genèse chapitre 11. Puis on va lire juste les premiers 9 versets. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servait de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Verset 5, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qui bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersait sur la face de toute la terre. Prions. Père éternel, on veut te remercier pour ta parole qui est là pour nous, et Seigneur, on sait que c'est toi qui veux te révéler à nous. Et Seigneur, on voudrait ce matin que tu nous montres des choses ici qui sont là pour nous, pour nous former, pour nous aider à te comprendre, mais aussi à mieux t'obéir. Seigneur, on demande ces choses par le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, c'est le sujet ce matin, c'est la confusion. Parlons politique. Y a-t-il donc confusion dans le monde politique? Un point qu'on a beaucoup mis en. Moi personnellement. Hein?
Est-ce qu'on sait que tu trompais de classe?
Non, pas du tout. Mais quand on regarde le politique, on écoute les discours, est-ce qu'on comprend ce qu'il veut dire? Ou est-ce qu'il nous dit qu'est-ce qu'il pense vraiment? C'est la confusion, le chaos, hein? Et ça, c'est un exemple. Mais ça nous mène à poser la question, d'où viennent les partis politiques? D'où viennent les nations? D'où viennent les différents points de vue, les différentes perspectives? Comment ça a commencé? Et on le trouve ce matin dans Genèse chapitre 11. Plus important, on devrait se poser la question en lisant ce passage, comment ça devrait m'affecter? Comment je dois réagir dans le monde dans lequel je vis face à ce qui est écrit ici il y a tellement longtemps? Nous lisons dans chapitre 9, okay, plusieurs parties de chapitre 9 où on a les généalogies après Noé, pas 9, chapitre 10, excuse-moi, versets 31 et 32. Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation. Et c'est de eux qui sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. OK, so on a le chapitre précédent, on a plusieurs généalogies des trois fils de Noé. Et on a cette conclusion qui nous dit, et pas, en passant, ce n'est pas juste là, mais à plusieurs reprises, on nous parle du fait que c'est là, de là viennent les nations, là viennent les langues. Pourtant, chapitre 11 nous commence avec cette phrase qui dit quoi? Toute la terre avait un seul langue et les mêmes mots. Est-ce une contradiction? Oui. Un verset d'écart, et puis on a littéralement deux choses différentes qui se disent l'un après. Et c'est quand même spécial. Je ne sais pas pour vous autres, mais je trouve que c'est un peu difficile à voir ce passage-là. En passant à l'expression qu'on a ici, d'une seule langue et des mêmes mots, c'est pas la même chose, ça? Une langue puis des mots?
Langue. C'est les mots qui caractérisent la langue.
D'après moi, je pense que c'est ça. Cependant, il y a une réalité ici qui se trouve. C'est que on parle tous la même langue ici, n'est-ce pas? On parle français. Même les anglophones parmi nous essayent de parler le français. Et des fois, on parle et puis on se sert de mots, mais on parle ici de mots vocabulaire. Souvent, on n'a pas le même vocabulaire. Si vous travaillez dans un métier quelconque, disons, dans les champs, et vous êtes spécialiste en agriculture, vous avez un vocabulaire qui n'est pas semblable à celui qui travaille dans l'informatique. On parle la même langue, mais il parle de choses que je ne comprends pas. Une source de confusion dans mon emploi constamment. On a des patrons qui veulent qu'on fasse des choses, mais ils ne comprennent pas la technologie. Nous, on l'explique, et c'est incroyable comment est-ce que leurs yeux viennent pleins d'eau, et ils nous regardent et ils reposent les mêmes questions à maintes et maintes reprises. C'est clair qu'ils n'ont jamais compris la technologie. Pourquoi? Vocabulaire. Langage. Dans notre domaine à nous, c'est beaucoup, c'est une terminologie, beaucoup d'acronymes. C'est des lettres qui veulent dire des expressions. Et des expressions qui sont importantes pour la gestion de l'entreprise. Mais avoir la même langue, ce n'est pas une garantie qu'on a nécessairement le même vocabulaire. Mais ici, on parle de toute la terre qui a une seule langue et un même vocabulaire. Et c'est normal. On pense à Noé et ses fils qui ont survécu le déluge. C'est sûr qu'on a le langage de la famille de Noé. Chez nous, on a un langage des Côtes-Noires. Chez vous, j'imagine qu'il y a des langages propres à vous autres. Les expressions, les idées, les concepts. Mais c'est toute la famille de Noé, et c'est toute la même chose. Même s'il y avait des millions et des millions, des milliards de personnes qui sont mortes dans le déluge, il en reste seulement une famille qui reste après le déluge. Alors, on a cette notion ici qu'on a probablement une contradiction. Et le plus qu'on étudie, le plus qu'on constate qu'entre chapitre 10 et chapitre 11, il y a un chevauchement. Il y a quelque chose qui s'est passé. Something happened. Quelque chose. On cherche à comprendre. Et d'ailleurs, c'est pourquoi le Saint-Esprit, à travers Moïse, nous donne ses premiers 9 versets pour qu'on puisse comprendre un événement spécifique suite à le déluge qui nous a transformé le monde dans lequel nous vivions. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre, c'est que Moïse est en train d'annoncer les commencements aux enfants d'Israël. Lorsqu'on regarde l'écriture de Genèse était écrit quand Moïse dirigeait les enfants d'Israël à travers le désert, 40 ans, et c'est à ce moment-là qu'on a rédigé les 5 premiers livres de la parole de Dieu. Et quand on pense à ces 5 différents livres, on réalise qu'on est en train d'instruire le peuple. Comment Dieu pense, comment Dieu agit. Et une des questions que tout le monde va poser, c'est comment ça a commencé? Et alors Moïse, à travers Moïse, Dieu se révèle et explique la création. Un événement précis qui a pris 6 jours, que ça a fait un effet incroyable dans l'univers. Tout a été créé par Dieu et pour Dieu. Et on a vu dans chapitre 3 comment est-ce qu'on a introduit le péché. Commencement de péché. Et ensuite, on a vu en chapitre 6, 7, 8, comment est-ce que Dieu a jugé le péché sur la terre, rendu si grave qu'il a inondé le monde, il a tué tout le monde comme punition. Et l'autre chose qu'on saisit mal en lisant ça, c'est que Moïse a écrit Genèse pour son auditoire. On pense souvent que c'est Dieu qui se révèle à moi, parce que moi, je suis important. Mais la réalité, c'est qu'au moment de l'Écriture, Moïse avait un paquet de pécheurs qu'on appelle les enfants d'Israël, et ils sont désobéissants, ils ont besoin de savoir, et ils donnent l'information, cette révélation, mais dans un format qu'eux autres vont comprendre. Il va se servir d'un langage qu'ils vont comprendre, l'hébreu, on va parler de ça tantôt. Il va parler d'un langage, mais aussi d'un vocabulaire et aussi d'une géographie que les autres vont comprendre. Alors, beaucoup de ce qu'on trouve dans chapitre 10, ce qu'on trouve dans chapitre 11, ce sont des références à des choses que les gens de ce temps-là vont dire, « Ah, oh oui, je comprends très bien. Je connais ce pays-là. Je connais ce monde-là. Ils viennent d'où, eux autres? Ils viennent d'où, eux autres? » Et ils sont capables de placer la révélation de Dieu dans un contexte qui est vivant pour eux autres. Et c'est très important parce que nous, quand on lit, on a une tendance à penser, nous sommes des Québécois, l'an 2024. On pense à des choses comme aujourd'hui, comme dans lesquelles nous vivions, mais on a besoin de mettre des sandales, se mettre des robes et des manteaux comme eux autres, et penser comme eux autres pour être capable de saisir qu'est-ce qui est en train d'arriver. Alors, Moïse est en train de parler ici dans Genèse de comment les nations ont commencé. Et ce qu'il va nous montrer, il va montrer comment c'est dû au péché d'homme.
Quand est-ce que l'araméen a changé en hébreu?
on va arriver à ça, Jacques. C'est, en passant, c'est l'inverse.
Ah
oui, l'hébreu est plus vieux, oui. Oui. Et justement, ce qui arrive, c'est que, devine où est-ce que l'hébreu a commencé? Le tour de Babel. C'est justement où est-ce qu'on a commencé toutes les langues. Et on voit dans les généalogies que l'hébreu était un des premiers langues connues de ce temps-là. Je me demande même, est-ce que c'était la langue originale que Noé parlait? Probablement pas, mais c'est possible. On voit justement la façon que ça a commencé. Et c'était et je dis tout de suite, là, c'était un miracle, c'était une action de la part de Dieu surnaturelle. Les gens aujourd'hui voudraient qu'on pense en termes d'évolution, que ça a été transformé à travers les années. Non. C'est pour ça que ça a été révélé ici. Pierre?
Je pense que l'hébreu est pas mal vu même avant le déluge, là, parce que tu regardes les noms, par exemple, Genèse 5, mm-hmm. les noms qui sont donnés aux personnages, très figurativement l'hébreu.
Oui.
D'accord? Yeah. Quand on donne un nom, ça veut dire plus qu'un nom. C'est plus que Pitou.
Dans ce temps-là, et on va voir ça dans le texte aujourd'hui, tout à fait. Et c'est une réalité. C'est drôle, tout le monde a un nom. Le nom que je porte, moi, c'est le nom que ma mère m'a donné. Et ça veut dire juge. L'Éternel est mon juge. Yeah. C'est Daniel. Hein? Alors, les noms ont des sens. Et en passant, ça revient encore à l'hébreu. Lorsqu'on regarde le passage ici, il faut constater une autre affaire que les enfants d'Israël vivaient, que pour nous, on ne le voit pas nécessairement, c'est tellement caché dans notre culture, mais dans leur culture, c'était très prominent. C'était l'idée de l'idolâtrie. D'où vient l'idolâtrie? D'où est-ce qu'on a arrêté d'adorer Dieu, puis on a commencé à adorer les morceaux de bois, les morceaux de pierre, les morceaux de métal? D'où ça vient tout ça? Bon, Noé n'avait pas d'idole, on n'en parle pas, mais après, juste après... Et c'est important, cette notion. Noé et ses trois fils ont sorti de l'arche. Et ils sont les seuls hommes à survivre le déluge. Ils partagent les mêmes expériences. Ils partagent les mêmes histoires, le même langage. Ils ont les mêmes valeurs. Et on voit ça dans Genèse 9, où on parle de péché des fils de Noé. Et on voit qu'ils ont la même valeur, ils ont le même concept. Ce que Pierre nous parlait tantôt de le nom figuratif. Pour un hébreu, tout est figuratif. Tout est bien indiqué. Et entre le déluge et Abraham, combien de temps est-ce que vous pensez? Combien de temps a passé? Entre le déluge et Abraham. Combien? Pas pire. Moi, j'ai compté 10. Yeah. Mais 7 générations, 8, 9, 10, OK? 350 ans. Il n'y a pas grand-chose entre Abraham. Savez-vous qu'Abraham est né à peu près le même temps que Noé est mort? C'est fascinant de le voir. Il y avait même la possibilité, peu probable, mais... Oh, yeah! Le fils de Noé, Shem, a vécu quasiment 100 ans, 150 ans passé Abraham. Le peu de temps, en réalité, est très court, surtout pour des gens qui vivent longtemps. Nous, on vit que, quoi? 60, 70, 80 ans, 90... On est parti comme un vapeur. Mais eux autres, ils ont vécu beaucoup plus longtemps.
Mais une question. Quand il est arrivé à 160 ans, il était vieux ou il était comme la jeunesse de 20 ans?
Abraham?
Moi, je sais qu'il travaillait la terre. Il faisait beaucoup de choses. Puis quand on est vieux, on commence à relâcher.
Mais 175 ans?
C'était jeune. C'est déjà à l'époque de Noé, mais après Noé.
Ça a changé, ça a beaucoup changé.
Après Noé, quand Abraham et Sarah ont commencé à avoir des enfants, ils n'étaient plus en âge d'espérer d'avoir des enfants.
Oui, ils avaient dépassé l'âge, ils avaient 100 ans. Il était vieux, Tito, c'est ça que Pierre est en train de dire. Sauf que, et moi je trouve ça fascinant, Abraham a perdu Sarah, il a pris une autre femme. Et élever encore un autre 8 garçons. Et là, tu dis, ten minutes, c'est un vieux bonhomme, comment il peut faire ça?
Par le miracle de l'Éternel, parce que dans la mort, je ne veux pas être égal dans la mort pour éviter à un homme d'avoir des rapports
sexuels. Et on réalise tout à coup que dans un cas, c'était vraiment un miracle de la vie. Mais aussi, c'est une caractéristique importante pour la discussion ce matin. Parce que combien de monde est-ce qu'il y avait au moment du tour de Babel? C'est une question que moi, ça me tracasse depuis une semaine et demie. Là. Ça m'agace, j'ai lu. Il y en a qui disaient qu'il y en avait des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes. Je dis, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens.
Mais où est sorti sur une seconde?
Alors, Christiane est descendue hier, elle m'a vu dans sur mon bureau, je travaillais sur une chiffrier, puis elle a dit, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, j'explique, bien, j'essaie de calculer combien de monde qu'il y avait, basé sur certains paramètres bien simples. L'exemple, et j'ai noté quelques-uns ici, c'est que lorsqu'on lit les généalogies, OK, et on lit le nom de quelqu'un qui a eu des fils, qui a engendré un fils, son nom était, il avait tel âge. Et là, à chaque fois, dans chapitre 10, il nous dit, et il engendrait des fils et des filles. Et puis je me demande, combien de fils, combien de filles? Et là, j'essaie de penser comme un vieux Québécois. C'est plus vieux que moi, plus vieux que Jacques. Donc, on parle de quelqu'un vraiment vieux, là. Combien d'enfants qu'il y avait dans les foyers dans ce temps-là?
Ma grand-mère,
25. Ta-da! 25! Mesdames, pensez ça, 25 accouchements. Christiane?
C'est pas vrai.
Hein, qu'est-ce que t'en penses, l'autre?
Soyez fécond,
je suis. Soyez, exact. C'est une des caractéristiques de ce passage. Soyez fécond et multipliez. Et là, on pose la question, combien? C'est normal, si on retourne 100 ans dans la vie québécoise, que les foyers avaient 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25 enfants. Ça, c'était normal pour des gens qui ne vivaient pas plus que 80 ans. Et en passant, ça tuait des femmes. Ah, mais c'est vraiment, quand tu dis, c'est lourd. Alors, on voyait cette image-là, puis pourtant, le Seigneur avait dit à Ève qu'elle était pourquoi? La douleur d'enfantement était pour être augmentée. Ah, mais c'est vraiment, ça fait partie de la punition. Et les hommes avaient plusieurs femmes. OK, un autre variable à ajouter, là, la polygamie. Et là, ce qu'on commence à constater, c'est que le chiffre est grand. Et c'est pourquoi que Christiane regardait le tableau que je faisais, elle a dit, ça n'a pas de bon sens. Non, ça n'a pas de bon sens. Si on regarde le calcul, et ça, c'est un fort problème. On parle de sept générations jusqu'à Abraham, mais on parle juste de au moment du tour de Babel. C'était pas Abraham encore. Abraham n'était pas encore né. So, c'était pas sept. C'était quatre ou cinq générations pour arriver. Et je vais arriver à pourquoi on pense à cette date-là. Mais on sait que dans ce temps-là, on avait 10, 15 enfants. On avait beaucoup d'enfants. Et on sait qu'il n'y avait pas de contraception comme nous avons aujourd'hui. Et comme l'exemple qu'on a parlé de notre explosion de population à Québec il y a 100 ans, et les gens vivaient beaucoup plus longtemps. C'est plus facile d'avoir une grande famille quand le plus vieux s'occupe des plus petits. Et si on vivait 200 ans, 300, même 400, 500 ans, c'est logique de voir une famille très nombreuse. À un point, on travaille le champ, et les gars, aujourd'hui, c'est la récolte, on y va, en gang, et on passe, on part. On va manger cet hiver. Il faut comprendre que depuis Noé, maintenant, le météo a changé. Les saisons ont changé. Beaucoup plus comme nous, on est habitués. Chaleur, froid, pluie, neige, tous ces éléments-là ont fait en sorte que c'est logique d'avoir une gang pour s'occuper ensemble. Et alors, on a cette notion ici qu'on a beaucoup de monde. Le calcul, les plus conservateurs nous disent qu'il y aurait probablement 2 ou 3 fois 10 000 personnes, 20 000 personnes, disons. Que je trouvais ça, quand j'ai entendu ça, quand j'ai lu ça, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Quand j'ai fait le calcul, si j'avais juste 10 enfants par famille en moyen, 20 000 personnes, c'est une bagatelle, c'est facile. En 5 générations, on remplit ce chiffre-là. Mais si on en a 20 ou 25, il y a un facteur de multiplication. Quand Dieu a dit, soyez féconds et multipliez, il voulait vraiment dire multiplier. Quand on fait cette notion, on parle de probablement une population de 600 000 personnes. Incroyable le nombre de personnes. Et quand on regarde ceci, on réalise que le monde grandit. Alors, l'Éternel avait dit quoi? C'est quoi les instructions qu'il a dit? Il a dit quoi? De remplir la terre. Il ne voulait pas qu'il se tienne à une place dans une seule ville, mais il voulait qu'il remplisse la terre. Alors, c'est un défi pour eux autres. Et les autres, ils sont en train d'aller à l'encontre de justement ce défi-là. Et ici, on ne parle pas seulement des individus, mais aussi les tribus, de faire en sorte qu'ils doivent être distribués à travers le monde. Ah, verset 10:5 nous dit que c'est par eux qu'on a été peuplé les îles des nations, selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, ben oui, c'est exactement ce qui est arrivé. Mais ça explique pas comment ça se fait qu'on a ce passage où il y avait un seul peuple dans une seule place. Alors, une des choses qui nous aide à comprendre, c'est de comprendre les choses qui arrivent ponctuelles, les événements. Dans chapitre 10, on a les généalogies génériques de tous les enfants de Noé. Et parmi tous les autres, on arrive à un des descendants, Cush. Verset 8 de chapitre 10 nous dit que Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, et c'est pourquoi l'on dit « comme Nimrod vaillant, chasseur devant l'Éternel ». Ça a l'air que c'était un terme qu'on se servait même dans le temps de Moïse. On donnait ce nom. Alors, il y a des mots là-dedans que dans l'hébreu, on a plusieurs sens. Et on le voit bien ici traduit en français, même chose en anglais, sauf que l'arrière-plan des mots a beaucoup plus d'importance. Le mot « puissant » voulait dire « avec force ». Et normalement, pour avoir cette force, il fallait qu'on domine. On domine sur le terrain. On domine sur les animaux. On domine même sur les personnages. On parle ici de puissance, pas nécessairement juste force physique, mais aussi force dans le sens, dans la société. C'est un gars qui est habitué, Nimrod, de faire qu'est-ce que ça lui tentait, puis ôte donc les jambes. Quand il passe, oui, M. Nimrod, oui, on se tasse, oui, M. Nimrod, on se fait qu'est-ce que tu veux. Et il nous dit aussi ici, il était un champion sur les autres, un chef. Le mot qu'on parle pour puissance, c'est vraiment quelqu'un qui dirige, quelqu'un avec force et conviction, les gens vont le suivre. On a aussi le terme ici qu'il fut un vaillant chasseur. Vaillant, en passant, c'est le même mot que puissant. C'est la même expression. On est en train de trouver d'autres façons, d'autres synonymes pour dire la même chose. Et en hébreu, on dit la même chose. C'est un homme puissant, c'est lui le boss, c'est lui qui est en charge. Quand il va à chasse, il va avoir du succès, c'est lui qui a les forces. Et on voit cette image. Ensuite, on dit qu'il est chasseur. Et l'image qu'on a, c'est quoi? L'automne au Québec, et les hommes, ils se mettent leur camouflage, ils se montent eux autres dans le bois sauvage, ils attendent patient le gibier qui va passer, pouf! Et ils ramènent à la maison le bouffe pour l'hiver. On est fiers de ces hommes-là. C'est l'image qu'on a. Le mot hébreu voulait dire oui, ça, mais beaucoup plus. Il était expert dans le domaine de tuer. Oui, Pierre?
En passant, Nimrod, c'est un verbe hébreu conjugué, ça veut dire « nous nous révoltons ».
J'arrive à ça. T'as raison, Pierre. Yeah. On parle ici d'un homme qui est en charge d'une révolution. Le problème qu'on a, c'est de quoi est-ce qu'il va avoir une révolution? On a un seul peuple, on a un seul monde, il va se révolutionner contre Dieu, l'Éternel. L'Éternel a dit, vous êtes dispersés sur la terre, remplis la terre. Et Nimrod a dit, non, c'est pas ça que je veux faire. Et c'est ça que ça veut dire. C'était le révolutionnaire. Et dans le monde politique, on aime ça. Quelqu'un qui va tout changer. Oui, on va le suivre. Et tu peux imaginer qu'est-ce qui est arrivé. À peu près 100 ans après le déluge, okay? Pas longtemps, 5 générations, 4-5 générations après le déluge, 100 ans, 110, 120, Nimrod est là et c'est lui qui amène une révolution. Et c'est lui qui est celui qui est en charge. Et je dis ça parce que dans chapitre 10, verset 10, il nous dit, « Il régnait d'abord sur quoi? Babel. » Ah, regardons ça. « Éric, Akkad et Caïn au pays du Shinéar. » En passant à Shinéar, je veux juste vous parler rapidement. Là, vous savez où est-ce que ça se trouve, ça? Ça se trouve où est-ce qu'on a construit les villes, un après l'autre, par-dessus l'autre, la ville de Babylone. Hein? C'est dans la vallée de Mésopotamie, qui est la jonction des fleuves Euphrate et Tigre. Ils se rencontrent à la même place, et c'est cet endroit-là où est-ce qu'on parle de le Jardin d'Éden. Yeah, on parle de retourner à nos sources. Et on trouve là quoi? Un terrain fertile, on trouve là une place agréable, protégée des éléments. On est dans une situation vraiment confortable. Quelle meilleure place de bâtir une ville pour toute la population de la terre. Alors, Nimrod semble être le chef des peuples qui ont habité cette place-là. Il semble que c'est lui qui a dirigé les efforts de garder la population ensemble. Restons ensemble. Pourquoi est-ce qu'on veut rester ensemble? C'est la famille. On aime ça, être capable d'exercer notre pouvoir sur la famille. On aime ça, diriger. C'est dur d'être chef quand tout le monde est parti au loin. Hein? Et tu vois le problème, hein? Ça va à l'opposition. Dans verset 2 de chapitre 11, nous dit, « Comme ils étaient partis de l'Orient, ils se trouvaient une plaine au pays de Shinéar et ils habitèrent. » On parle de cette place-là, c'était vraiment un endroit agréable pour de rester. Et là, ils disent, arrêtons-nous de voyager, de promener. Pense un peu à Noé lorsqu'on a sorti de l'arche. Est-ce qu'il y avait des maisons pour habiter? Non, il va falloir en construire. Mais entre-temps, on va rester sous des tentes. On va être des bergers. On va avoir des champs. On va travailler des jardins. Mais on va rester dans un endroit probablement... Yeah, et c'est temporaire, right? On se promène un peu. Est-ce que vous voyez ça? Moi aussi, je le vois. Et là, tout à coup, l'idée est arrivée, on va faire une ville. Et ce qui est fascinant, il dit, faisons des briques. Connaissez-vous un peu la nature humaine? Oui, hein? On est des humains, on sait qu'est-ce que c'est. Est-ce que des fois, vous trouvez des solutions à des problèmes? Et vous êtes fiers de vous-même, hein? Vous avez trouvé une façon de rectifier une recette qui ne marche pas, ou peut-être un meuble qui est brisé à la maison, puis tu l'as réparé, ou peut-être vous avez eu l'idée de voir, il y a une vente telle place, on va aller acheter telle chose qu'on a besoin, on va se servir, que ce soit une machine à crème glacée ou non, une machine à café, excuse-moi, ou non. Nous autres, on aime ça, l'intelligence humaine. Et on aime ça, l'intelligence appliquée. Quand il nous construit un pont, puis ça fonctionne bien, puis il n'y a pas trop de circulation, on est-tu donc gâté d'avoir l'intelligence humaine à notre disposition, prête à nous servir? Et que c'est fun! L'Internet, oh boy, le gars qui a inventé ça. Ah, misère de misère. Quand on a découvert Amazon et qu'on peut commander des choses, puis ça arrive chez nous, on n'a même pas besoin de sortir dehors dans le tempête. Pour aller. Non, 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 il va venir le livrer. Hey, l'intelligence humaine, on aime ça. Faisons des briques. Parce que si je vais construire une maison dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On ramasse des roches, puis on se fait des murs. Hein? C'est un peu comme ça qu'on fait ça. Non, non, on va faire des briques. C'est quoi le fun des briques? Les briques, on peut les tailler comme on les veut. Si on veut quelque chose de courbé, si on veut quelque chose de droit, un brique, on les fabrique comme on veut. Et l'intelligence humaine. Je vante ici. J'ai un de mes garçons qui voulait se faire un trottoir. Et puis, il dit, papa, je vais faire un trottoir avec du ciment. Mais je vais tricher. Je vais faire pareil de ciment comme des briques. Alors, il s'est fait un moule. Puis alors, il fait le ciment, il met dans le moule, il met le moule à terre, il laisse sécher, il enlève le moule, il continue à faire deux. C'est vraiment beau, ça a l'air des briques. Ça se peut-tu, là? Hein? Et quand je lisais ça, je pensais justement à ce projet qu'il avait. On est donc fin, on va faire d'une ville. La ville va être bien construite. Ça va avoir des maisons, ça va avoir tout. Et en plus, on va faire quoi? Un tour. Alors, le mot tour ici, nous autres, c'est un mot qui est physiquement précis, mais elle a un sens. Dans l'ancien temps, c'était normal que quand on construisait une ville, qu'on mettait dans la ville un objet qui était symbolique de notre succès, de notre société. On appelait ça un ziggourat. Et les archéologues nous disent que dans le Moyen-Orient, il y avait plein de ces ziggourats qui étaient construits. Chaque fois où on avait une habitation avec assez de monde, on pouvait construire un ziggourat. Et littéralement, physiquement, je vous dis qu'est-ce que c'est. Moi, j'avais un livre d'enfant quand j'avais 4 ans, 5 ans, et ma mère nous lisait l'histoire. Puis j'aimais tout le temps l'histoire autour de Babel parce que les dessins, ça avait une grande cercle qui montait haut comme un énorme tour. C'est pas ça. Ça, c'est juste l'artiste qui avait du fun avec nous. C'est une pyramide. On bâtissait un pyramide, c'était un bâtiment qui était toujours carré, commençait avec étage par étage, chaque étage était plus petit, et on montait jusqu'à un point. Typiquement, au point, dans un ziggourat, on trouve un temple avec une idole. Et c'était un lieu d'adoration, c'était un lieu de rencontre, et on veut garder notre monde ensemble dans notre ville, alors on va quoi? On va investir dans la même religion, on va les forcer à toutes croire les mêmes choses, accepter les mêmes croyances, et c'est là où on bâtit cette tour. Et il faut comprendre que quand Dieu a descendu, il y avait une raison pour laquelle il n'était pas content. C'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose de beau, puis donnent la gloire à Dieu en disant « Wow! » Dieu m'a donné l'intelligence de bâtir un édifice impressionnant. Non, 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 c'était beaucoup plus que ça. C'était religieux. C'était un problème important comme rebelle contre Dieu. Now, l'idée, un des commentaires que j'ai lu la semaine passée, j'ai trouvé ça drôle. Si Si on construisait le tour pour se défendre, tu sais, une ville avec des murailles, des tours, on imagine ça, hein? Vous avez certainement vu des films, peut-être que vous avez lu des histoires, on décrivait ça. C'était pour défense. Mais si verset 1 a raison, qu'il y en a un seul peuple, de qui on va se défendre? Des petits lapins qui vont attaquer nos jardins? Oui.
Et celui-là, c'est le père des Cananéens.
Oui.
Donc,
peut-être
qu'il y avait quelque chose de plus.
Mais c'est pas ça que verset 1 nous dit. Parce qu'on n'est pas arrivé justement à ce point-là. Tu as raison. Mais ici, on est avant cela. Et on est arrivé à une situation où on n'a pas besoin, il n'y avait pas de guerre comme telle. Et comme on connaît un peu la politique et l'histoire, on sait très bien que des fois, quand il n'y a pas de guerre, ça n'en prend un, on va en fabriquer un. On va trouver quelque chose sur lequel on va discuter et on va être dans désaccord. Ton clôture est sous mon terrain. Non, non, non. Non, il est sous mon terrain. Et puis, ça finit quoi? Avec un combat. Et littéralement, on voit cette situation ici devenir le caractéristique. So, dans ce passage, on a trois éléments essentiels à constater. Un, c'est la désobéissance à Dieu. Hein? Dieu les a bénis en Genèse 1, 28, il nous dit, verset 28 de Genèse 1, il dit, Dieu dit à l'homme et à la femme, il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur tous les animaux qui se meurent et sur les autres nations. Non, il dit pas sur les autres nations. Il parle pas de ça. Il dit, soyez féconds, remplis la terre. Puis en fin de compte, il veut qu'on domine pour rester et habiter en paix. Dans chapitre 9, Noé sort de l'arche et Dieu bénit Noé et ses fils et il leur dit, soyez féconds, multipliez quoi? Remplissez la terre. Okay? C'est un commandement de Dieu qui revient à plusieurs reprises à travers les premiers chapitres. Le deuxième problème qu'on a ici, c'est le tour. Comme j'ai dit, c'était un sommet qui était pour toucher le ciel. C'était pas toucher physiquement le ciel, c'était presque impossible. On peut pas arriver à bâtir quelque chose assez haut pour toucher au ciel. Cependant, on peut en bâtir assez haut pour montrer qu'on est fin, qu'on est beau, pour voir loin, et pour aussi installer, quoi, des idoles. Monter un temple. Et c'est pas littéralement un tour qui touche au ciel, mais c'est un figuratif. Il parle ici de les pratiques religieuses qui ont commencé. Babel était reconnu comme étant la source de l'astrologie. On parle de les 12. Où tu penses qu'on allait pour étudier les étoiles? On monte dans le tour. On regarde le ciel. On divise et on met des dieux par planète. Par le dieu du soleil, le dieu de la lune, le dieu des étoiles, on est subdivisé. L'astrologie vient tout de là. Et c'est là où on a commencé le polythéisme. Qu'il n'y a pas un seul dieu, mais il y en a multiples. Il y en a qui sont plus puissants que d'autres. Il y en a d'autres qui sont inférieurs. Et le troisième item qu'on nous dit dans chapitre 1, c'est qu'on va se faire un nom. Qu'est-ce que ça veut dire, se faire un nom? Moi, je pense à tous les enfants qui sont dans l'école, et qu'est-ce qu'on leur enseigne, et qu'est-ce qu'on leur dit, et qu'est-ce qu'on leur dit? On dit, tu es fantastique, tu es merveilleux, tu vas avoir toute une éducation et toute une carrière, et on essaie de pomper leurs estimes de soi pour en faire qu'ils soient quoi? Orgueilleux. C'est ça que ça finit. Moi, je suis de telle université. Moi, j'ai travaillé à telle place. Et moi, j'ai fait telle chose. Moi, je me pète les bretelles. Et c'est exactement ce qu'on parle ici. Nimrod cherchait à monter un peuple contre Dieu. Et ce qu'il a fait, il les a pompés à être orgueilleux et à chercher leur propre gloire plutôt que de donner la gloire à Dieu. Et nous savons... La politique! C'est là où on a commencé ce matin. La confusion vient avec la politique. Hein? Mais la notion ici, c'est qu'on a un problème très important. Il faut le comprendre, nous, comme enfants de Dieu surtout. Dieu est un Dieu très jaloux. Il ne donne pas sa gloire à n'importe qui, à n'importe quoi. Dieu veut recevoir la gloire qui est due à lui. Et ça, c'est tellement important. Dieu ne partage pas. On ne peut pas juste dire, nous, on est bon, on est fin, on est fantastique. Ça ne marche pas, ça, devant l'Éternel. Sur verset 5, l'Éternel a descendu. Je ne sais pas si vous l'avez su, moi, c'est ma spécialité. On me dit à la maison qu'on n'aime pas ça, mais c'est dommage, je suis fait comme ça. Dieu est sarcastique. Verset 5 et 6, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qui bâtissaient les fils de l'homme. Il savait déjà en passant. Il est omniscient. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, ils ont tous une même langue. C'est ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. Si je peux mettre un petit air dramatique, Dieu descend, il voit la ville, il voit la tour, il dit, « Oh non, ils sont tellement puissants, qu'est-ce que je vais faire? » L'Éternel est très sarcastique. On sait très bien qu'il est tout puissant. On sait très bien qu'il a jugé le monde. Il les a complètement détruits avec un déluge. Et 100 ans plus tard, il fait face à la rébellion, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire ce que Dieu veut faire. On ne va pas l'empêcher. Il est en train de moquer de ses hommes avant de les punir. Et ça, c'est spécial. Il va les empêcher. Verset 7. Descendons. Hein? Descendons et la confondrons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Verset 7. Non, moi, j'avais mal compris ça quand j'étais tout petit. Moi, j'avais compris que tout le monde parlait une langue différente. Personne ne se comprenait. Et quand tu penses un peu, là, c'est pas tout à fait qu'est-ce qui t'est arrivé. Pierre?
Alors, descendons, c'est au pluriel.
Au pluriel, hein? Oui,
c'est au pluriel.
La Trinité. La Trinité est déjà présente. Et Dieu est en train de dire « nous hein? ». Père, Fils et Saint-Esprit sont beaucoup plus puissants, à un point qu'on peut miraculeusement changer leur langage. Alors, ce qu'on constate, si on regarde le chapitre 10 et tous les descendants qui sont énoncés, on découvre très rapidement qu'on parle de chaque tribu et leur langue. Il semble que la confusion qu'on a n'était pas entre mari et femme, n'était pas entre père et fils, mais était entre les différents descendants, les tribus, les descendants de Noé. La confusion était telle que, ben, au moins nous autres, on se comprend, chérie, pack tes bagages, on s'en va. C'est un peu comme ça. Et pensez la logique un peu. Si vous êtes malheureux, Roy, tu vas dire à Connie, on fait-tu des plans? Connie, tu vas dire à Roy, qu'est-ce que tu en penses? Hein? C'est normal. Et on voit ce que Dieu veut accomplir. Ben, oui, il veut qu'on remplisse la terre. Ben, allez-y, en tribu. Chacun sort son bord. Et on découvre ici, à travers le chapitre 11, après, comment est-ce qu'on s'est écarté à gauche puis à droite, et comment nous avons des tribus qui sont formées. On a cette confusion où on n'est pas capable de collaborer. On n'est pas capable de bâtir ensemble. Mais on est capable de vivre dans nos tribus et partir à chacun de notre côté et remplir. Il y a un autre élément qu'on trouve ici, et moi je trouve ça fascinant cette partie ici, là, c'est que l'Éternel les disperse, verset 9, sur la face de toute la terre. On l'appelle la ville Babel. Babel, dans le langage, voulait dire confusion. Nous, aujourd'hui, on a même le langage, on parle de quelqu'un qui va... Il va bafouer. Ça vient de même racine, cette notion de confusion. Et c'est comme ça qu'on a nommé la ville de confusion. Et on voit très bien que Dieu les a éloignés, il les a dispersés. Beaucoup de discussions là-dessus en passant parmi les commentaires. La dispersion, on sait que c'est le résultat. Le mécanique, on n'est pas sûr. Est-ce que c'est simplement on a parti à pied puis on a dit on s'en va chacun de notre côté? Comment est-ce que le monde se sont rendus en Amérique du Sud? Comment est-ce que le monde se sont rendus en Amérique du Nord? Comment est-ce que le monde sont... et en Afrique? Et comment c'est arrivé ça? C'est-tu une migration tranquille qui se faisait une semaine après l'autre, un mois après l'autre? Ou est-ce que Dieu a simplement dispersé le monde? Et les familles se sont trouvées, les tribus se sont trouvées dans des endroits complètement différents? Moi, je n'ai pas la réponse, mais je sais qu'il y avait beaucoup de discussions. Est-ce que Dieu, dans cette action naturelle de changer les langues, de aussi changer les endroits où les gens habitaient? Est-ce que c'est naturellement une cause de manque de communication que les gens se sont écartés, ou c'est-tu quelque chose qui était arrivé? J'ai une tendance à croire que Dieu a fait quelque chose de très spécial.
Comme tous les peuples, des interprètes, ils parlent tous la même langue. Comme ils ne pouvaient plus se comprendre, ok, on va prendre ceux qui parlent leur langage et on va aller
ensemble.
Yeah. Comme tous ceux qui parlent français vont ensemble, tous ceux qui parlent anglais vont ensemble, tous ceux qui parlent espagnol vont ensemble.
C'est ça.
Alors, on se disperse, laisse mon sens.
Et c'est très logique de penser comme ça. Moi, je ne veux pas dire que ce n'est pas ça. Mais je sais que Dieu avait un rôle à faire là-dedans qui était spécial. Et justement, on voit par exemple, quand on arrive dans le chapitre 12, on va voir la vie d'Abraham. C'est un cas très spécial. Il fait partie d'un tribu. Il a des comportements. Il a des bons et des mauvais habitudes. Est-ce que je peux dire ça? Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Je regarde mon professeur là-bas. Il dit quoi? Possible? Yeah. So, on a tout un autre scénario qui va suivre. Et en fin de compte, c'est une extension très logique. Moïse explique aux enfants d'Israël comment ils se sont rendus dans le désert. Comment ils sont rendus ensemble. Et il est en train de dire, voici comment les peuples se sont divisés. Et le mécanique plus ou moins important, le résultat essentiel. Ils se sont dispersés. Ils se sont trouvés des places. Et on voit même dans la vie d'Abraham, on va voir des exemples de comment Dieu a travaillé pour l'amener où ce qu'il a amené et de façon qu'il l'a fait. Maintenant, ce qui est fascinant, j'aime aussi, c'est l'expression « sur la face de toute la terre ». C'est pas juste on est dans le Moyen-Orient et on se déménage, on se déplace d'un pays à un autre. Mais il dit ici sur toute la face de la terre. Comment ça se fait qu'on a des populations rendues partout, partout? Et on voit les cultures et on voit énormément de similarités entre les cultures. Il y a beaucoup de choses qui reviennent à ce qui est arrivé à ce moment ici. Ce que je trouve fascinant un peu sur une petite note, c'est que Noé est encore en vie. Noé a encore un autre 200 ans à vivre. Son fils Sem a encore un autre 300 ans à vivre. Il est là. Il est témoin oculaire. Qu'est-ce qu'il disait? Comment est-ce qu'on le traitait? Probablement, on le repoussait. Hein, le vieillard, tasse-toi. Nous autres, on prend la charge. Et on voit tellement qu'il y a des éléments là-dedans qui ont dû être très évidents. Quand on parle d'une révolution contre Dieu, ils savaient très bien qu'est-ce qu'ils faisaient. Et ils avaient des témoins qui ont dit, j'ai vu le déluge. J'ai vu qu'est-ce qui est arrivé quand Dieu décide de punir une population. Et on voit cette confrontation, ce conflit. Et comme on a commencé avec, là, je vois la politique pure et simple. Mais à travers ce passage, juste pour terminer, nous voyons la souveraineté de Dieu. Dieu est en charge. Juste parce que les hommes décident de faire quelque chose, Dieu va faire ce que Dieu veut. Et en passant, c'est une réalité. À l'ouvrage, je ne sais pas chez vous, mais à l'ouvrage, on a beaucoup de discussions sur la politique. Et à chaque fois, ils me parlent à moi. Moi, je dis, tu sais, il y avait les Babyloniennes, il y avait les Assyriennes. Il y avait les Mèdes et les Perses, il y avait les Grecs, il y avait les Égyptiens. Là, tu veux que je me prononce sur quoi? Un gouvernement canadien qui va durer peut-être 5 ans? Ça vaut pas la peine de gaspiller la salive là-dessus, hein? Ah oui. Ben, j'ai pas le choix. Hein? Je sais que Dieu est en charge. Et c'est une opportunité de soumettre le fait que les Palestiniens aujourd'hui ne sont pas si puissants que ça. Dieu les a permis d'être là et Dieu les va les enlever quand il est tanné. Dieu va faire ce que Dieu veut faire. C'est quand même inévitable.
Il sera le meilleur des politiciens parce qu'il
Mais une des meilleures expressions que j'ai jamais vues, c'est un gars qui est spirited politicien. Évidemment, personne ne l'a cru. Puis le bonhomme, il avait dit, être premier ministre, c'est comme être chef en charge des concierges. C'est ça. On s'occupe du pays, on s'assure que c'est propre, c'est nettoyé, c'est entretenu. C'est ça notre job. C'est pas si grand que ça. Évidemment, personne n'a voté pour lui. Hein. Mais même face à la désobéissance de l'humanité, Dieu est en charge. Et ça nous donne un défi comme enfant de Dieu. Est-ce qu'on est prêt à se soumettre à sa volonté? Est-ce qu'on est prêt à accepter? Peu importe. Soyons pas distraits par les vaines paroles, par les actions des hommes autour de nous, mais soyons fidèles à notre Sauveur. C'est vraiment ce qu'on voit à travers ce passage-là. Et on va en parler plus encore la semaine prochaine. Terminons avec un mot, Pierre. Père éternel, on veut te remercier pour l'exemple qu'on a de la tour de Babel. Comment tu es un Dieu qui ne tolère pas la désobéissance et tu vas le punir un jour. Et Seigneur, c'est à nous de te regarder et de l'apprécier tout ce que tu nous as donné, les grâces sans fin. Et avec cela, Seigneur, nous te donnons gloire pour toutes choses. Père éternel, on voudrait que tu nous bénis, que tu nous guides, que tu prépares nos cœurs pour l'adoration qui vient. Que ce soit acceptable à toi. Demande ces choses par le nom de Jésus. Amen.